Podcast.com. Essaye ça.
J'espère que j'ai réussi à vous mettre ça dans la tête. C'est peut-être la pire chanson ayant jamais existé. C'est pour ça que je l'aime. C'est bizarre comment j'aime des affaires épouvantables. Faudrait bien que je vous fasse un petit le temps d'une pause à un moment donné. Juste vous mettre des tunes mauvaises, agréables. Tu sais, des tunes qu'on aime dire bah, c'est bien mauvais, mais on l'arrête pas puis on continue de l'écouter. Tu sais, c'est, je sais pas si c'est une forme de voyeurisme ou audio ou je sais pas quoi, mais en tout cas. Baby Shark. Je suis pas sûr que je la connais, Baby Shark. J'ai peut-être déjà entendu puis je connais pas le titre. Vraiment, je regarde ça. Oh non, Despacito. Non. Ok. Non, mais je parle de chansons, tu sais, bizarre, spécial, insolite. Despacito, c'est juste de la merde. OK. Aujourd'hui, on a pas mal de sujets. J'ai pas mal de sujets. Écoute, je fume plus de shit. OK. Bon, il va falloir que j'aille faire un petit tour sur YouTube après pour découvrir ces horreurs-là que vous me proposez. Et parlant d'horreur, Dominique Olivier, avec ses dépenses horribles, revient dans l'actualité. Pourquoi? Vous vous rappelez de Dominique Olivier? J'en ai parlé un petit peu dans le crachoir. C'est cette directrice de l'OCPM qui se baignait dans l'argent des contribuables qui dépensait à qui mieux, engageait ses amis, leur offrait des huîtres, des repas d'huîtres à 300-400$. Qui s'était payé, je pense, 17 000$ de restaurant à elle toute seule. Et tu sais, qui avait toujours eu une attitude, tu sais, un peu royale, tu sais, de « Queen can do no wrong », puis elle n'acceptait pas la critique, puis pour elle, c'était normal, puis « j'ai bel doigt, il n'y a pas ça, des huiles usées, puis j'ai le doigt, fais ça ». Bon, c'était la version classe de « j'ai le doigt », si vous vous rappelez, « God Cantley », mais bon... elle revient dans l'actualité. Pourquoi? Parce qu'elle décide de poursuivre les médias de Québécois. Hey, j'espère qu'elle va pas poursuivre le crachoir express, parce que j'ai pas une scène. Mais non, je pense pas. Je pense qu'elle ignore totalement mon existence. Mais je vais quand même en parler parce que, écoute, c'est pas anodin. Elle poursuit Québécois pour 1,7 million de dollars. Pourquoi? Pour avoir fait leur job d'informer le public sur les dépenses publiques avec leur argent. Les médias sont là justement pour surveiller beaucoup les politiciens, pour protéger le public, pour dénoncer quand l'argent des contribuables est gaspillé. Tant qu'à moi, ils ont fait leur job et très bien à part de ça. Mais elle, bon, elle n'est pas contente. Puis je sais pas comment qu'elle réfléchit. À quoi elle pense? Moi, je ne suis pas juriste, là, mais j'ai pas l'impression qu'elle va gagner, à moins qu'elle ne prouve que les articles de Québécois, de QMI, soient diffamatoires, c'est-à-dire qu'ils soient mensongers ou que c'était pas d'intérêt public. Ou ben, je pense que, tu sais, je pense qu'ils ont démontré qu'ils disaient vrai. Hein. Il y avait des chiffres à l'appui. On a réussi à avoir des documents. Certains tellement caviardés qu'il n'y avait plus rien à lire dessus, notamment ceux qui concernaient Guy Grenier, fourni par Guy Grenier lui-même, qui est censé être la personne qui s'assure de qui s'assure de l'accès à l'information du public. Ben, il a été le premier à brimer cet accès-là en caviardant complètement les documents qui le concernaient, lui. Il voulait pas qu'on sache combien il était payé, qu'est-ce qu'il avait à faire. Finalement, il a tout caviardé, il a beurré ça au charpie. Il n'y avait plus aucune information pertinente dans les documents qu'il a livrés. Ce qui, moi, me dit qu'il est probablement très incompétent ou très malhonnête dans sa fonction d'agent de communication, de commissaire à l'accès à l'information, parce que il a bloqué l'accès, tout simplement. Il a refusé l'accès au public à des informations qui sont d'intérêt public. Puis je sais pas si ça va rester là, mais normalement, il me semble que ça devrait pas passer. On dirait qu'on a décidé de le laisser filer entre les mailles du filet. Donc, Dominique Olivier réclame 600 000 $ en dommages matériels, 500 000 en dommages moraux. Parce qu'elle a eu de la peine. Parce qu'elle s'est faite stouler. Elle avait le droit de gaspiller notre argent. Dans sa tête. C'est fou comment ce genre de personne-là. Ça me fait penser à Lise Thibault, l'ancienne gouverneure générale du Canada, qui aussi abusait des fonds publics, surtout que sa job sert à rien, un peu comme celle de Dominique Olivier. Là. Dois-je rappeler que l'OCPM est censé offrir des occasions aux citoyens de Montréal de discuter de projets réalisés à Montréal, puis qui étaient tout le temps partout dans le monde en vacances? Ah ouais, elle se trouvait des petits meetings à gauche et à droite pour justifier ses maudites vacances. Mais oui, Pantagruel, arrogante jusqu'à la dernière goutte. Et j'espère qu'elle va se faire virer de bord puis donner un petit coup de pied dans l'arrière-train, évidemment. Pas littéralement, là, mais par la justice. Genre, va-t'en chez vous, va bouder toute seule dans ton château de riche qui s'est enrichi sur le dos des Montréalais. Donc, c'est ça. 600 000 dommages matériels, 500 000 en dommages moraux parce qu'elle n'est pas contente de s'être fait stouler. Auprès de trois journalistes du bureau d'enquête de Média QMI, du groupe TVA. Hey, 18 000 piastres de restaurant à elle seule entre 2016 et 2019. Hey, c'est de l'argent, là. Oh, yo, et puis, ce qui est le plus drôle dans toute la nouvelle, c'est une phrase qui est inscrite dans la poursuite. Je suis pas capable de la lire sans rire. Dominique, à quoi tu penses? Ton avocat aurait dû te conseiller. Oh non, ça, on l'écrira pas. Je comprends que tu le penses, là, Dominique, là, mais c'est cave en esti. Oups, j'ai sacré. La phrase est la suivante et qu'elle figure vraiment dans la poursuite. Madame Olivier jouissait avant la publication des articles des défendeurs d'une réputation impeccable. Ben oui, on ne savait pas que tu nous crassais. Vincent Lacroix aussi, hein, il avait une réputation impeccable avant de se faire pogner. C'est quoi cet argument-là? Mais oui, t'avais une réputation impeccable parce que personne savait que tu gaspillais notre argent puis tu te baignais dans des piscines pleines de cash qui appartient aux Montréalais, que t'allais en vacances partout dans le monde et que la pratique était normalisée dans ton office de... Ah, c'est épouvantable, de consultation publique de Montréal. Même les autres employés fonctionnaient de la même façon. Guy Grenier, grosses vacances, puis sa successeur, dont j'oublie le nom, qui a répété la même affaire, qui s'est allé se promener partout, puis qui s'est acheté des beaux écouteurs à 1000 piastres pour écouter des Zooms. Je connais bien du monde qui travaille le son professionnellement puis qui n'ont pas ça, des écouteurs à 1000 $. Mais elle, ça y en prenait. C'est épouvantable. Je vais la relire une dernière fois. Madame Olivier jouissait avant la publication des articles des défendeurs d'une réputation impeccable. Maudite niaiseuse. Oh, j'espère qu'elle va se faire revirer de bord de la façon... La façon qu'elle mérite, parce que pour vrai, c'est de l'arrogance. Ça montre exactement la mentalité de ce genre de personnes-là, qui ont des emplois qui leur permettent comme ça d'abuser des fonds publics impunément pendant des années. Tellement que elle se croit tellement l'élite. Elle a tellement le sang bleu, noble et royal, qu'elle ne tolère pas que de vulgaires roturiers et des gueux du journal de Montréal ne critiquent ses façons de faire. Ah, vous n'avez plus de pain à manger. Mangez de la brioche. Aïe, aïe, hein, une vraie Marie-Antoinette. Sauf que la Marie-Antoinette, je pense qu'elle n'a pas vraiment dit ça. Sauf que ça, c'est dans la poursuite, ce qu'elle dit. Ah, mais pourtant, je jouissais tellement. Tout le monde me respectait avant que les gens sachent que je volais leur argent, que j'utilisais les fonds publics pour me payer des vacances et des repas somptueux avec mes amis et mes collaborateurs, qui sont les mêmes personnes. OK, ben bonne chance, Dominique. Je te souhaite de te planter solidement avec cette affaire-là, de t'enfarger dans les marches, dans l'escalier de la justice et de le débouler jusqu'en bas. Viens nous rejoindre, nous, les gueux, les roturiers! C'est vrai, là, tu sais, ça... C'est pas bien ben convaincant, son affaire. Ben oui, c'est sûr. Tout le monde a une bonne réputation avant de faire une connerie puis de la perdre. Pice. OK. On va changer de sujet. On va suivre ça. C'est certain. Hey, parlant de gaspillage d'argent public, vous pensez quoi de ça? Un nouveau toit pour le stade olympique, l'anneau technique. Là. On veut tout refaire ça pour 870 millions. L'autre option, c'est de laisser pourrir ça ou de démolir la grosse bolle de toilette avec un mât pour la serviette, comme disait Roquet Belles Oreilles. Mais là, au moins, on a appris une leçon. Okay? Ça aura juste pris 50 ans. Là. Mais on a appris que le toit rétractable, c'est une idée de marde. Okay? On s'excuse, M. Taillibert, là, mais c'était une idée de marde, votre toit rétractable. Parce que il existe une saison que vous ignorez en France qui s'appelle l'hiver au Québec, puis ça magane, ça détruit pas mal tout. Fait que mon opinion, c'est qu'on devrait sacrer ça par terre et construire autre chose. Ouais. Mais en même temps, moi, je c'est peut-être niaiseux, mais je suis un peu attaché au stade olympique. Mais j'ai de la misère à justifier ça, à part que c'est cool. C'est pas mal sa grosse caractéristique. C'est cool, c'est beau, de loin, c'est beau. Quand on s'approche, on voit qu'il est un petit peu jauni, et cracouillé, puis défraîchi. Mais à combien on est rendu d'investir dans le stade en tout? Hey, je ne sais pas, pour vrai, ça doit être des milliards. Là. Ça fait je ne sais pas combien de fois qu'on essaie de réparer ça puis qu'on change le système de toit rétractable qui ne marche pas pour un autre toit rétractable qui ne marche pas non plus. Là, on oublie le toit rétractable. Ça va être une nouvelle toiture qui sera fixe, rigide. Et puis au centre, plutôt que d'avoir un trou béant exposant les spectateurs aux éléments, ça sera un toit vitré. Ça sera transparent en verre. J'ai hâte de voir comment il va péter celui-là. J'espère que ça va pas tomber sur le monde. Mais là, bon, au moins, moi ça me rassure. Okay? Quand on dit, bon, là, on va faire le quoi qui se tient un peu solide, là. Puis on laisse faire le toit rétractable, c'est de la bouette. Puis le mât, ben, il sera là pour être joli. Puis c'est le fun quand tu arrives de loin, quand tu rentres dans Montréal, tu le vois vraiment de loin. Mais il se passe quoi au stade? Hein? Il n'y a pas d'équipe de rien qui joue là, à ma connaissance. Là. Je veux dire, c'est pas un aréna de cégep. Là. On peut pas mettre... Tu sais, si les expos n'étaient pas capables de remplir le stade au tiers, je pense pas que l'équipe de junior majeur va réussir, de n'importe quel autre calibre, va réussir à remplir cet amphithéâtre-là qui était tristement vide toujours. Moi, je suis allé voir les expos là une fois. J'avais des billets derrière le marbre. Puis, il paraît que c'est des bons billets. Moi, je connais pas grand-chose au baseball, mais c'est vrai que c'est le fun. Parce que tu peux voir les pitchs, tu peux analyser ça, puis tu vois le jeu se dérouler devant toi. Fait que ça aurait dû être une expérience incroyable, mais l'ambiance n'était pas là. Tu sais, c'est comme mort au stade. Il faut qu'il soit plein pour qu'il y ait de l'ambiance. Puis, pour qu'il soit plein, ben ça prend un groupe rock pour aller faire de la musique avec du mauvais son, pour réussir à remplir cet amphithéâtre-là. Parce que le son est dégueulasse, OK? Ça, c'est bien connu depuis des décennies. Toutes les shows qui se passent là, c'est parce que c'est écho. Il est pas conçu pour avoir un bon acoustique. Et Patrick Huet dit « Clisse que c'est long, le baseball. » Attends. Le baseball, c'est pas juste long, là. C'est plate aussi. C'est vrai, c'est sûrement le sport le plus plat ever. Mais c'est quand même... Mais étonnamment, moi, j'aime ça aller voir des games de ligue de garage. Tu sais, quand tu marches, puis tu vois... Ligue de garage avec la famille, puis le monde qui gueule dans les estrades, puis plus de bière que de balles de baseball qui sont dans les... dugout ou dans le... Puis tu sais, il y a tout le temps une ambiance le fun. Je reste tout le temps une manche ou deux, mais jamais une game au complet. Mais bon, on n'aura pas d'autres expos, là. Je pense pas que le baseball professionnel revienne, puis même s'il revenait, je pense pas que ça remplirait le stade. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait le remplir. Les Nordiques. Les Nordiques de Québec à Montréal. Non, pour vrai, j'ai de la misère à comprendre comment qu'on finance ça. Je veux dire, qui loue ça? Qui fait de l'argent avec ça? Il y a quand même des salons, des congrès, des ci, des ça, là, le salon de l'auto, puis des patentes de même. Puis il y a des shows qui sonnent mal. Mais, tu sais, des événements sportifs, tu sais, des Olympiques, on n'en a pas si souvent que ça. Hein? Les derniers, c'était pas mal en 76, si je me trompe pas. Puis, bon, en tout cas, on a décidé de le réparer au coût de 870 millions. Puis, selon le gouvernement, ça devrait engendrer... Si on l'utilise à son plein potentiel, ça devrait engendrer des retombées économiques de près de 1,5 milliard de dollars sur 10 ans. On pourrait faire venir les 15 ans. Mais le pire, c'est que... Il y a du monde qui irait, mais... Ça serait épouvantablement plate, une game de hockey. C'est un stade de baseball. Le terrain est ben trop grand. Le public serait trop loin de la glace. On verrait rien. Pour vrai, c'est une drôle de bébite. On devrait le convertir en vaisseau spatial. Il y a déjà le look. Hein? Il y a le look Star Trek, là, Enterprise. Mais bon, on le refait, puis ça va coûter ça. Puis la décision est prise, puis on verra bien ce que ça donne. On verra bien si, effectivement, ça va se repayer en dedans de 10 ans. Mais au moins, on va regarder le positif de la chose. Le positif, c'est qu'on ne remet pas la maudite toile rétractable qui ne marche pas, qui ne marche jamais, qui n'a jamais marché. Ça va être un toit vitré qui va quand même permettre de laisser le soleil pénétrer dans l'amphithéâtre ou la pluie de tomber sur la tête du monde ou bien de voir les étoiles pendant un show, des affaires de même. Ça reste intéressant. Puis moi, je trouve quand même que c'est un beau bâtiment. Là. Je fais bien des jokes. Mais c'est un beau bâtiment de loin. Il est très beau. Puis pas si iconique que ça, par exemple. Parce que quand on regarde des images, tu sais, de l'international de Montréal, l'image de Montréal, tu sais, Québec, ça va être le Château Frontenac, le Château Frontenac ou le Château Frontenac. Montréal, il me semble qu'on voit pas, on met pas assez en valeur, ou ben, en tout cas, il se fait peut-être pas assez remarquer. C'est peut-être parce qu'il se passe jamais rien d'important dans ce stade-là, à part des salons pour voir des machines à moteur, puis des autos, puis des gugus de même. Mais sait-on jamais. Peut-être réussiront-ils vraiment à rentabiliser ce vaisseau spatial en forme de toilette en dedans de 10 ans. J'aimerais ça qu'on m'explique les retombées économiques parce que, il y a le revenu du stade, mais mettons les commerces autour, l'hôtellerie, les restaurants, mais faut qu'il y ait du monde dans le stade. Faut que t'attires une foule pour qu'après ça, elle ait dépensé avant puis après dépenser son argent. Ah oui, le Monster Spectacular, les gros Bigfoot. Ouais, c'est ça, des spectacles de machines puis des gugus de même. C'est probablement ça qui va continuer à se passer là. c'est très drôle. Football, soccer, ouais, mais ça va-tu rappeler? Oui, une émeute en 92. Hey, hein, c'était malade, ça, pour ceux qui n'étaient pas de ce monde encore ou trop jeunes ou qui n'ont pas entendu parler de ça. Ça m'étonnerait si vous êtes assez âgé. Mais il y avait eu un show en 92 de Guns N' Roses et Metallica. Guns N' Roses s'est présenté sur scène avec quelque chose comme une heure et demie de retard. Ils ont joué 4-5 tunes. Axl Rose, il a pété une coche, ou comme dirait le plus vieux ici, pété les nerfs. Il a pris son micro, il l'a pitché à terre, il a sacré son camp. Sa voyante, il avait dit hein, de ne pas jouer dans les villes qui commencent par la lettre M. Puis Axl Rose, c'est un grand musicien, c'est un grand compositeur, mais c'est un cave. Puis ben, il faisait des affaires comme ça. Puis ça a été très long avant que Metallica se présente. Pas parce que Metallica est en retard, parce que Guns N' Roses était supposé jouer 2 heures, puis ils ont joué juste quelques minutes. Et quand Metallica s'est présenté là, il y a eu un accident. James s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Et il a été brûlé par une pièce pyrotechnique. Genre brûlé, là. Deuxième, troisième degré. Sa main est encore imprimée dans la guitare, là. Il a perdu de la peau, tout ça. Il a fallu qu'il aille à l'hôpital. Et puis, le concert de Metallica aussi a planté après quelques minutes. Je sais pas s'il y a une malédiction sur le stade, mais on devrait jamais faire de musique là-dedans. Premièrement, ça sonne de cul. Puis deuxièmement, ben, cet événement-là, bon, là, faut pas être superstitieux. Mais quand même, ça avait donné une émeute épouvantable. Les spectateurs avaient tout saccagé, puis avaient viré des chars à l'envers, puis des chars de police, brûlé des chars de police. C'était épouvantable. Les boutiques des expos avaient été dévalisées parce que c'était de leur faute. Mais non, c'est une émeute, là. Le monde agit comme un troupeau de buffles en route. C'était pas ben beau à voir. Puis, oui, c'est vrai, le show de Pink Floyd... Roger Waters, oui, il est en train de partager sa musique. Roger Waters, c'est un petit caractère. Hein? Moi, je l'aime beaucoup, mais c'est un spécial. Puis, il avait mal réagi à un spectateur qui gueulait et qui se comportait comme un débile pendant que lui faisait profiter de sa musique magistrale de la tournée Animals. Puis, il avait été dégoûté de ça. Il avait craché dessus. Puis, il a sacré son camp, puis il est allé composer The Wall, tu sais, où ce qu'il réalisait, qu'il y avait une espèce de mur qui séparait le public de Pink Floyd, ou plutôt de Roger Waters. Puis, il a rentré là-dedans tous ses traumatismes d'enfance de son père mort à la guerre. Ça a donné, selon moi, le meilleur album de tous les temps de Pink Floyd, l'album double, The Wall. Fait que quand même, il y a de l'histoire, on vient de le prouver, il y a de l'histoire rattachée à cet édifice-là. Fait que bon, on donne une dernière chance, OK? Dernière fois, on répare une dernière fois, dernier coup de pinceau, dernier toit. Puis après ça, là, si ça marche pas, là, hein, on peut-tu bulldozer ça puis faire autre chose? Oui, le film de Wall, c'est assez malade. C'est assez... beaucoup de symbolique là-dedans. Beaucoup de... Ouais, c'est vraiment quelque chose. Autre sujet, tiens. Oh, tiens, tu t'es solide en terminant. Non, attends, un petit sérieux rapidement parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Mais vous savez, la semaine passée, je vous ai parlé des 5 joueurs d'équipe Canada Junior qui étaient accusés d'un viol collectif. Ils ont comparu et ils plaideront non coupables. C'est ce qu'on a compris de ce que les avocats ont déclaré. Donc, à la Cour de l'Ontario, Carter Hart, Dylan Dubé, Cal Foot, tu parles avec Adam Foot, Alex Formanton puis Michael McLeod n'étaient pas présents, mais bon, leurs avocats sont allés là pour enregistrer un plaidoyer de non-culpabilité. Pour les gestes qui auraient été causés le 18 juin 2018 en marge d'un gala organisé par Hockey Canada. T'sais, des fois, je confonds les deux. Puis bon, il y avait beaucoup de joueurs, puis ça a dérapé dans une chambre d'hôtel. On n'en sait pas tellement plus à date parce que, bon, c'est leurs plaidoyers qui sont enregistrés. On verra, on va suivre le procès pour voir comment ça se passe. Est-ce qu'ils seront reconnus coupables ou acquittés? C'est pas mal intéressant de savoir ça. Puis aussi les détails de comment ça peut s'être passé. Ça peut nous en apprendre encore un peu d'autres. Encore un peu sur la culture malsaine dans le milieu du hockey. Ou de certains sports. Je l'ai dit du sport en général, mais c'est pas vrai. Là. Je pense pas qu'en aviron, il y a beaucoup de viols puis d'initiation avec des rames dans le froufrou. ben oui, j'ai appris une nouvelle expression fin de semaine. Le froufrou. Bon, voici la petite insolite pour terminer. Il y a un camionneur d'une compagnie de transport. Bon, ils ont accepté de transporter du cannabis légal au Canada d'une valeur de 1,4 million. Puis le gars devait se rendre au Nouveau-Brunswick. Il a tapé ça dans son GPS. Et le GPS donne souvent le trajet le plus court pour se rendre à destination. Et le trajet le plus court le faisait transiter par l'État du Maine au United States of America. Et puis, c'était pas une bonne idée parce que au Maine, le pote n'est pas légal. Puis le Homeland Security, ils niaisent pas eux autres. Puis tu sais, bon, il aurait pu dire excuse, qu'est-ce que tu fais ici avec ça? Ah, ben ça, c'est parce que c'est une livraison. C'est du cannabis légal. Ah, ok, ben gars, vire de bord, t'aurais pas dû passer par ici. On te laisse pas rentrer. Fin de t'en aller. Non. Le truck a passé à la ligne, c'est terminé. Fait que c'était plein de potes dans le truck, puis ils ont saisi le camion, ils ont saisi la cargaison, ils l'ont détruite. C'est 1,4 million que ça va coûter probablement à l'employeur du chauffeur de camion, parce que la compagnie qui produit, le producteur Greentone, producteur québécois, évidemment avec un nom anglais, parce que c'est ça, c'est ça. Il va probablement poursuivre la compagnie de transport, qui, elle, d'ailleurs, n'est pas assurée pour ce type de cargaison-là. Fait que ça va coûter. D'après moi, il va perdre sa job. Ça, d'après moi, ouais. Puis, le producteur, pour sa perte, va certainement blâmer, et avec raison, je pense, le transporteur, qui aurait dû donc se prémunir d'une assurance. Et puis la prochaine fois, si jamais vous devez transporter du cannabis d'un endroit à l'autre au Québec, au Canada, passez pas par les États-Unis. C'est une mauvaise idée. C'est épouvantable. Ça va coûter très cher. C'est une bonne gaffe. C'est une bonne grosse gaffe. Oui, c'est ça. Le Greentone, c'est ça, réclame le remboursement de la cargaison perdue. Oh, mais aussi des montants supplémentaires pour des dommages subis. Portant la réclamation à 1,4 million. OK, c'est ça. Il n'y avait pas 1,4 million de cannabis dans le camion, mais c'est ça que ça risque de coûter. En tout cas, la poursuite s'élève à ça. Parce que le producteur n'a probablement... C'est probablement parce que le producteur n'a pas pu livrer son produit là où il était destiné et honorer la commande. Puis, je sais pas, c'est quoi les volumes de production? Mais faut que ça pousse, hein? je sais pas s'il est en mesure de renvoyer un autre chargement tout de suite à son client au Nouveau-Brunswick. Évidemment, sans passer par les États-Unis, ce qui est une maudite mauvaise idée. Ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Ah, puis tiens, j'ai-tu le temps? Bah oui, il reste 2 minutes. Petite déclaration un petit peu plate de... C'est pas de Régis Labombe, pas été ben fin. Parce que vous savez que Denis Coderre envisage de briguer la chefferie du Parti libéral et le relever de ses cendres. Puis, pour vrai, pourquoi pas, je veux dire... Denis Coderre, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas... C'est un politicien qui a eu quand même assez de succès. C'est quelqu'un qui est verbomoteur. C'est peut-être quelqu'un qui serait capable d'occuper la chefferie, malgré le fait qu'il relève d'un AVC. Puis ça, c'est pour vrai, de songer à retourner dans un environnement aussi stressant et aussi intense que la politique provinciale après avoir subi un AVC. Déjà ça, c'est... C'est-tu admirable ou c'est... C'est inconscient, je pourrais pas dire. Mais Régis, lui, trouve ça malsain. Il dit... Régis Labombe a dit... J'ai trouvé ça triste pour lui. Visiblement, Denis Coderre n'est pas capable d'avoir de vie en dehors de la politique. Puis ça, c'est malsain. Toujours, il y avait une petite rivalité entre Régis et Denis à l'époque où ils étaient maires les deux en même temps. Régis a eu plus de succès que Denis à la mairie. Mais bon, écoute, moi, je ne blâme pas Denis Coderre de vouloir exercer sa profession, puis de vouloir retourner en, En politique, je pense qu'il serait capable de faire quelque chose. Il peut pas faire pire que Dominique Anglade puis de ce qui s'est passé dernièrement, là. C'est sûr que Coderre relèverait le parti. Ben, en tout cas, ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire. Puis au moins, il a l'expérience, il a le charisme. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Denis Coderre, tout le monde le connaît. C'est quelqu'un qui est très ouvert avec les médias. On l'appelait même un peu Kid Kodak. Là. Il était même avide d'exposure. Contrairement à Régis Labombe, il était un petit peu plus difficile d'accès. Là. Pour avoir interviewé les deux, c'est plus difficile de jaser avec Régis Labombe. Hein. Il est un petit peu plus précieux, on va le dire comme ça. Tandis que... Puis il fallait appeler ses... En fait, la technique pour réussir à booker Régis Labombe dans une entrevue alors qu'il était maire, c'était d'harceler son attaché politique pendant plusieurs semaines. Puis à un moment donné, il stand, puis il vient. Tandis que Denis Coderre, je l'appelais sur son cell, puis « Hey, Denis, après-midi, ça t'attends-tu? » »« Oui, parfait, 15h20. » Tu sais, c'était beaucoup plus simple. Il était beaucoup plus près du peuple. Fait que, ben moi, je... Pourquoi pas? C'est signe qu'il a vraiment fait un AVC de vouloir retourner en politique après un AVC. Ben là, l'AVC, on n'entrave pas le jugement, Fred. Hein? C'est surtout la mémoire, le langage. Puis, il parle un petit... Écoutez-le parler, puis il n'a pas le même débit qu'avant. Mais pour vrai, je trouve sa rémission impressionnante. Parce qu'il y a bien des gens qui restent beaucoup plus marqués après un AVC. Ben évidemment, il y en a qui restent paralysés, mais il y en a dont le langage ne revient jamais, la mémoire ne revient jamais. Je trouve qu'il fait preuve d'une certaine force. Il ne me fera pas voter libéral. En tout cas, on ne sait jamais. Mais je pense pas. Mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Mais moi, je serais prêt à donner la chance au coureur. Puis je pense que le Parti libéral, un, n'a rien à perdre. Puis deux, pourrait certainement profiter de l'expérience et du charisme de Denis Coderre. Parce qu'en politique, t'as bien beau être bien compétent. Rappelez-vous Stéphane Dion, là, qui était très, très compétent. Hein? C'était un nerd. Stéphane Dion, là, c'était quelqu'un de brillant, là. Mais c'était le gars le plus plate au monde. Il pouvait raconter la joke, la meilleure joke du monde, puis c'était sûr qu'elle allait tomber à plat parce que c'était lui qui la racontait. Connaissez-vous l'histoire de Paf le chien? Une voiture passe et Paf le chien. C'était toujours, tu sais, il passait pas bien à la TV, il passait pas bien dans les médias. Il y avait le charisme d'une palourde morte desséchée sur une plage. Tandis que Denis Coderre, il est capable de brasser la cage. Fait que, regarde, on va suivre ça. On pourrait peut-être même essayer de lui parler. Ça pourrait être intéressant. Je pourrais essayer mes vieux contacts. Je vous reviens là-dessus. On va regarder ça. D'ici là, ben Colin, il est passé une heure. Fait que je vous dis à demain pour un autre Express. Salut.
Membre de la famille H2O Web Media.
Abonne-toi à notre Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire Chambre froide.
Rire et facepalm garantis.
Joyeux.